Georges Moreau, catalepsie. Après une absence qui avait duré 3 mois au moins, le docteur Calvendrell reprit la bonne habitude de revenir chaque jeudi fréquenter chez Mademoiselle Mars. La célèbre comédienne, qui était alors la reine du théâtre, ne cacha pas son bonheur de voir Carmandel, pas plus qu'elle ne lui dissimula la surprise qu'elle éprouvait en constatant le changement physique qui s'était opéré en lui. Les cheveux, qui étaient jadis un beau noir, étaient maintenant devenus d'une blancheur de neige. Ses yeux, jadis calmes, avaient des reflets d'épouvante. Pour expliquer la familiarité avec laquelle Mademoiselle Mars entretenait le docteur, elle l'appelait papa Clemendel. Je dois dire qu'il l'avait reçu dans ses bras à son entrée dans la vie, c'est-à-dire en 1778. Elle lui donna. Elle fut donc ravissante par sa manière de sauter au cou du docteur, qu'elle embrassa et qu'elle taquina pour connaître à la fois le motif qu'il avait tenu si longtemps éloigné de notre compagnie et la cause du chagrin qu'il avait métamorphosé d'une façon si complète. « Bon, je te dirai cela après le thé. »« Non, tout de suite. »« Mais tout de suite, papa Carmandrel. » Elle eut en disant ces mots une moue d'enfant gâté qui provoqua un sourire douloureux et indulgent sur les lèvres du docteur. On forma le cercle, les causeuses se pressèrent autour du feu et chacun écouta Carmandrel. « J'ai reçu de M. Devel, ex-consul, un de mes bons camarades de jeunesse, une lettre par laquelle il m'informait que des malades indices graves lui faisaient présager une mort certaine. Je partis sur le champ et je trouvais mon ami, appelons-le Jean Dalmont pour conservé l'incognito, non pas alité, mais assis sur un banc de pierre à l'abri du soleil. Il contemplait devant lui, devant son château, un lac encerclé de sapins noirs. Je m'assis à son côté, l'examinant, l'interrogeant plus adroitement que je le pus pour me convaincre que la certitude qu'il avait de mourir ne provenait pas d'une faiblesse cérébrale. Mais, comme s'il eût deviné ma pensée, il anéantit mes doutes en prévenant mes interrogations. « Mes facultés intellectuelles sont parfaitement intactes, Carmandrel, sois sûr. Aussi bien, ce n'est pas pour solliciter tes soins que je t'informais, mais simplement pour te prier de m'examiner durant au moins 8 jours, lorsque j'aurai rendu le dernier soupir. Je ne comprends pas. Mais tu vas comprendre. Tu sais que mon désir suprême est de reposer ici, en vue de ce lac, où celle qui fut la compagne de ma vie, de toute ma vie, aimait à se promener. Je veux dormir auprès d'elle, là, sous ce tertre, où mes mains ont pieusement enseveli son corps, près de ce bosquet de charmilles dont l'ombre et le silence furent souvent propices à mes larmes. Et je possède pour moi-même, comme je la possédais pour ma femme, une autorisation légale contre laquelle personne ne peut se lever. Oh, ce n'est qu'un détail, mais je te le donne incidemment pour arriver à ce qui me préoccupe. Tel que tu me vois, je vis ici en la seule compagnie de Florian, le vieux domestique, qui me sauva des coups d'un Indien fanatique lors de la première année de mon long séjour à Pondichéry. Il m'était dévoué, mais son initiative personnelle est médiocre. Bon, ce n'est pas une parole de blâme, mais une simple constatation. Tu vas d'ailleurs en juger. Il y aura dimanche 1 mois, jour pour jour, je m'endormis comme à mon ordinaire après mon dîner. Le lendemain matin, surpris de ne pas me rencontrer dans le parc en allant pêcher au vivier, Foulon monte à ma chambre, frappe à ma porte, l'ouvre et constate avec stupeur que j'étais rigide. Me croyant mort, il ferme toutes les issues du château, court comme un fou jusqu'au bourg aux Morges, répandre la nouvelle de mon décès et ramène avec lui un de tes confrères. Celui-ci a reconnu les effets de catalepsie, demandai-je partiellement à l'ex-consul. Que non pas! Vraisemblablement influencé par l'accent convaincu de Foulon, il m'examine et finalement délivre un permis d'inhumer en bonne et due forme. Foulon, qui a d'un cadavre une peur instinctive, se fait aider par un jardinier pour me faire la dernière toilette et pour me veiller de nuit. Alors on me dépose dans un cercueil emprunté à l'un de mes vieux chênes, ainsi que je le prescrivais au début de mon testament. Puis les deux hommes se mettent en mesure de visser la bière. Mon heure n'était pas sonnée, mon cher Canadien, car au bruit des coups de marteau préparant les emplacements des vis, je répondis en frappant à l'intérieur du cercueil. Et je t'assure que je le brisais de ma main, car elle était devenue de fer devant l'horrible réalité. Oh, je pouvais devenir fou en une seconde. Sais-tu pourquoi? En voyant la nuit sur mes yeux, en touchant les planches du cercueil, une pensée traversa mon esprit avec la rapidité d'un éclair. Dieu, criai-je, ils m'ont enterré vivant. J'avais compris. J'étais dans un cercueil. Mais ce cercueil était sous la terre, était-il sous la terre? Heureusement, non. Je soulevais le couvercle d'une poussée qui fit céder les vis déjà engagées. Je fus aux fenêtres, je les ouvris, je respirai avec délices. Mais je souffris horriblement à partir de cette minute, car je songeais. Si pourtant je m'étais réveillé de mon sommeil léthargique, j'attendis que Foulon, qui s'était enfui avec son aide, voulut bien revenir. Il n'osait pas regarder. Pauvre Foulon, lui dis-je, si toutes les vis eussent été posées, ton départ me condamnait à mourir étouffé. Mon ami se leva, prit mon bras, et nous gagnâmes tous les deux le perron seigneurial où nous attendait, en nous attardant dans la contemplation des fleurs et des pelouses. Et en passant près du bouquet de charmilles, Je jetai à la dérobée un regard vers la terre où reposait celle qui avait partagé son existence. Une fosse s'y trouvait creusée. Et le récit qu'il m'avait fait était donc exact en tout point. Oh, il faudrait qu'on comblât cette fosse, lui dis-je. Pourquoi cela? La secousse fut pour moi trop rude. Et je le sens, cette journée sera pour ma vie terrestre un chant du cygne. Tenez, écoutez-le, le chant du cygne. En effet, par une coïncidence bizarre, des notes aussi douces que les sons d'une lyre dont les cordes eussent été mises en vibration par une brise légère, s'égrenèrent pour s'évanouir aussitôt sur l'onde claire et ombragée du lac. Il s'arrêta pour regarder l'oiseau qui avait chanté. C'était une femelle superbe, toute noire. Elle voguait avec grâce sur la nappe tranquille. Elle allongeait ou ployait son col soyeux au hasard de la rencontre des saules qui bordaient la rive. Son œil noir s'attacha sur nos personnes lorsqu'elle passa devant nous. Elle avait dans le port de sa tête fine, soyeuse et admirablement unie, une fierté particulière. D'un beau mouvement de ses pieds palmés qui chassaient l'onde, la reine d'ébène de ce coin champêtre et silencieux vira de bord et pour la seconde fois, elle passa devant nous. « Mais on dirait que cet oiseau me salue !» dit mon ami rêveur. « Tu ne crois pas, toi, à la bête en psychose ? Oh non ! Oh non ! Eh bien, moi, j'y crois !» Ayant défendu 40 années durant les intérêts de la France aux Indes, patrie de la croyance en transmigration des âmes, il avait dû céder à l'influence du milieu hindou, aux croyances si complexes et si mystérieuses. Il se retourna plusieurs fois pour observer le cygne qui avait quitté l'eau. « Entre nous, insista le docteur Kermandrel, il croyait certainement que la morte qu'il pleurait revivait en ce signe. Il s'attachait à cette idée parce qu'elle était pour lui infiniment consolante. Quant à la présence soudaine de cet oiseau que nul au château n'avait jamais vu avant la mort de Madame d'Almont, elle s'expliquait, selon moi, le plus naturellement du monde. Soit qu'il fût à l'état sauvage, soit qu'il fût échappé de tout autre parc de la contrée, cette cygne avait rencontré le lac de la propriété de mon ami. La solitude des bords lui ayant convenu, il s'y était installé. D'abord, la perspicacité de mon ami fut mise en défaut. Il ne mourut pas ce jour-là, ainsi qu'il en avait témoigné en entendant le chant du cygne. Et la soirée, qui fut fort belle, nous permit de prendre notre dîner à l'abri d'une véranda qui dominait toutes les dépendances du château. Nos regards se promenaient sur un paysage d'une splendeur sans exemple, et comme tous les êtres recueillis qui se plaisent au spectacle de la nature, le consul en subissait l'heureuse influence. Les rayons du soir qui mouraient sur les eaux du lac transparent s'éteignirent que nous discutions encore sur la marche de la diplomatie générale de l'Europe. Il fut convenu que nous passerions cette première nuit l'un près de l'autre. Il s'étendit sur un canapé. Je me blottis au fond d'un vaste fauteuil, bien à l'aise, pour lire devant le feu. L'ombre avait apporté le silence sur la terre. Le consul s'étant endormi, et moi j'écoutais la chanson du vent qui visait que laissait bruyamment les arbres du parc et les rosiers des pelouses. La respiration de mon ami était absolument régulière et les heures s'écoulaient dans un calme profond et parfait. J'ai promis de tout vous révéler, et voici ce qui advint à 2h30 du matin. Le vent, qui s'était enfui, me permettait de recevoir tous les bruits, de percevoir tous les bruits discrets qui venaient du parc. Et ce fut pourquoi j'entendis distinctement, vers le lac, le chant de la femme du cygne. Et au même instant, mon ami eut un tressaillement à peine perceptible. Il passa plusieurs fois la main sur son front. Il ouvrit les yeux, me regarda d'une façon étrange, d'un homme troublé dans son sommeil, puis il se rendormit. Je jugeai que je devais l'éveiller. Je l'appelai, mais il continua son repos. Une de ses mains pendait du canapé vers le tapis de chambre de la chambre aux fenêtres spacieuses. Je la pris et la tins un instant pressée dans mes mains mêmes. La température était normale. Alors je repris ma lecture devant le feu. Des soupirs s'exhalaient des lèvres de Dalmont. Je les acceptais comme d'heureux augures. Et ce fut vers 4 heures, je crois, que je m'aperçus que le corps du consul devenait rigide. L'aube parut. Je n'hésitais pas à ouvrir les fenêtres pour laisser pénétrer la fraîcheur matinale. Dalmont, je m'en aperçus spontanément, était de nouveau en catalepsie. Je soulevai sa paupière gauche. Il ferma un peu levé pour découvrir l'œil et, par un phénomène étrange, car il se maintint ouvert. J'appelai Foulon. Il vint. Et avant de le laisser pénétrer, je le prévins de l'état de son maître, pour lui éviter la crainte folle qu'il avait eu une première fois assailli. Il entra en tremblant, et ne pouvant soutenir la vue de l'œil ouvert, il me supplia « Oh, monsieur, cachez-lui la figure !»« Mais puisqu'il dort !» Je l'obligeai à passer sa main sur le front de Dalmont. Il le fit, et m'avoua ensuite que sa ridicule appréhension avait beaucoup diminué. Pour m'assurer de la véracité de son dire, je quittai brusquement la chambre, le laissant seul avec le corps qui paraissait inerte. 2 secondes après ma ruse, il dégringolait le perron. Je me rendis compte que ce garçon ne serait d'aucun secours ou d'un secours très imparfait. Je pris donc la résolution d'agir dans la mesure de mes forces uniques. Je dressai près du canapé où Dalmont reposait un lit de camp et j'y déposai mon ami. Je restai 8 jours seul en tête-à-tête avec ce corps. Pour nourrir le consul, j'employai les moyens usés en pareil cas. Rappelez-vous qu'il m'avait demandé de le veiller au moins 8 jours. Chose singulière, le soir du 8e jour, terme du temps fixé par lui, j'exposai, ainsi que je l'avais fait depuis le début de la catalepsie, une glace aux lèvres de Dalmont. Contre mon attente, elle ne fut cette fois ternie par aucun souffle. J'en fus réduit aux conjectures, et, je dois l'avouer, je fus accessible à une douloureuse perplexité. Était-il encore cataleptique? Mort? J'attendis un jour encore, ne sachant quelle partie prendre. Et tout à coup, je m'informai auprès de Foulon du moyen de me procurer un revolver. Il alla me chercher celui de Dalmont. Et j'attendis qu'il se fût retiré de notre présence pour essayer une expérience. Je fixai mes yeux dans l'œil ouvert du consul, et comme s'il eût pu m'entendre, je lui dis, dans la crainte qu'on ne t'enterre vivant, ami, je vais te loger une balle dans la tempe. L'œil resta fixe. J'armai devant lui le revolver, et je m'éloignai un peu, et par la fenêtre ouverte, je tirai au dehors le coup de feu. Je revins vivement à Dalmont, et je lui dis encore en plongeant au fond de son œil ouvert, « Ben, je vais t'en donner autant. »« Oh, taisez-vous !» cria Mademoiselle Mars. Mais Kermandrel était lancé. Il s'animait lui-même dans son récit. On voyait qu'il avait assisté à tout ce qu'il racontait. Sa figure avait la chair de poule, et malgré son intervention, qui n'eut d'ailleurs aucun succès, Mars éclata, elle aussi, jusqu'au bout. Elle écouta le conteur, qui s'était levé et mimait la scène du pistolet. Oui, j'allais tirer dans la tempe gauche, je vous l'assure, affirma Kermandrel. On ne me donnait qu'une indication. Elle n'avait aucun frémissement. Celle que mon pauvre et cher Dalmont était mort, et bien mort. Oui, j'allais tirer. Mais au moment où ma détermination irrévocablement prise allait être sanctionnée par un acte, une plainte s'éleva au dehors, traînante, triste, mélodieuse et douce. C'était la femelle du cygne qui chantait. Peut-être la lassitude des veilles passées auprès du corps du consul avait-elle aussi fatigué mon cerveau? Toujours fut-il qu'il me sembla que ce chant signifiait « Laisse-le !»« Foulon, dis-je au domestique, allez prévenir à la mairie de Moringue que l'on délègue un docteur. »« Il est bien mort, n'est-ce pas ?» me demanda Foulon. « Oui, je le crois. »« Comment ?» répliqua-t-il avec un effroi extraordinaire. « Comment vous le croyez? Vous n'êtes donc pas certain ?» J'attendis, pour ensevelir Dalmont, que mon confrère, désigné par l'autorité municipale, eût constaté le décès, et il fut convenu que le corps serait gardé toujours 3 jours encore, durant lesquels je le surveillerai minutieusement. On mit à mon service un vieux briscard qu'on avait vu de 36 couleurs, et je puis vous certifier que celui-là ne tremblait pas, car c'était un fossoyeur. Il fumait philosophiquement sa pipe à la fenêtre, passant devant le mort pour aller la secouer la cendre dans la cheminée. Toutes les formalités étant remplies, toutefois, par un dernier scrupule, Ne mime pas le corps en bière pour les 3 jours de veille. Je vis part au fossoyeur, sans fausse honte, des doutes qui me tourmentaient. Alors il me donna le conseil de lui laisser carte blanche pour confectionner une bière dans laquelle le consul pût se mouvoir au cas improbable, mais possible, où il se réveillerait sous la terre. Oh, il serait bien avancé de pouvoir bouger dans son cercueil, enfoui sous 1 mètre de terre. Bon monsieur, me dit le fossoyeur, avant de le refermer, ce cercueil, nous placerons ce revolver chargé, le chien levé, dans la main de notre ami. Si votre ami se réveille, il ne verra plus rien, il n'entendra plus rien. Il comprendra qu'il ne doit plus espérer. Alors, il s'expliquera la précaution du revolver et alors, oui, je serrai la main du vieux fossoyeur. Il venait, par son raisonnement, de me délivrer du poids qui étouffait. Remarquerez que le fossoyeur proposait de venir lever le chien du revolver. Ce n'est pas un détail, inutile, lui, qui était habitué à vivre en compagnie des morts. Il savait fort bien que les gaz vont se fondre et vont se tordre les cadavres sous la terre. Et il pouvait résulter que si nous entendions le bruit d'une détonation souterraine, nous pouvions bénéficier d'un doute. En se convulsant sous l'effort des gaz, la main qui tenait l'arme avait pu faire partir le coup. Nous n'étions pas dès lors absolument certains que le consul se fût réveillé, puis se fût brûlé la cervelle en constatant son malheur irrémédiable. Voilà ce que nous pensions, le fossoyeur et moi, et voilà pourquoi nous fîmes ainsi que nous l'avions dit. Le cercueil fut descendu de la fosse, près du bosquet des charmilles, côte à côte, pour ainsi dire, avec celui que renfermait les restes de Madame Dalmont. Et ce fut à cet instant-là, dit douloureusement Carmonel, que j'éprouvais les tortures morales les plus cruelles pour un homme puisse éprouver. Et quand la bière disparut à nouveau, une mélodie éclata de nouveau sur les flots calmes du lac. C'était la femelle du cygne qui chantait. Oh! s'écria le docteur plus douloureusement encore, comment n'ai-je pas songé à son chien? À son chien favori, qui n'avait pas fait entendre les aboiements funèbres et que je découvris le lendemain attaché à la. Dès qu'on a l'entrée du chenil, tout s'en est mêlé, oui, absolument tout. Foulon avait perdu la tête, le fossoyeur s'était trop pressé en besogne. Je lui avais donné comme indication de me combler la fosse qu'à demi. Et quand, dans la nuit même, je courus au cercueil en entendant le coup de revolver, je trouvai la tombe comblée, entièrement comblée. Eh mon Dieu, dit quelqu'un, peut-être le coup de feu provenait-il, comme vous l'avez prévu, de l'effet du gaz? Ben, je voulais le croire, soupira Kervedel. Mais la science me le défend. Un temps suffisant ne s'était pas écoulé pour cela. Mais qu'en savez-vous, Baba Gamandel? La chose est fort possible. Si l'on songe que le consul était non pas à l'état cataleptique, mais à celui de cadavre depuis plusieurs jours. Tiens, mais il se pourrait que vous eussiez raison, dit Gavardel à Mademoiselle Mars. Mais j'avais pas réfléchi à ça. Mais il redevint soucieux. On voyait bien qu'il n'était pas convaincu. Il nous en dit la raison en exprimant l'espoir que si son ami s'était réveillé, il ne se fût pas manqué à la première occasion, à la première balle. Voyez un peu quelle bizarrerie mêlée de terreur dans toute cette affaire. Le matin qui succéda à la nuit où j'avais entendu le coup de revolver, j'aperçus la femelle du cygne en compagnie d'un cygne superbe également noir, avec au-dessus de chaque œil un point rouge couleur de sang. N'est-ce pas curieux? Qu'en concluez-vous? Moi, dit Mademoiselle Mars. Si je pouvais croire à la métempsycose, je souhaiterais aussi d'habiter un corps de cygne. Bon, tu choisirais mal. Voilà tout, expliqua Kermandrel à la grande comédienne. Ta place n'est ni sur l'eau, ni sur les roseaux, mais bien au ciel, dans une étoile.